Jeanne Brooke a vécu à Sydney pendant 5 ans et puis elle a choisi en mars 2020 de rentrer en France juste avant le début de la pandémie de coronavirus. En mars 2018, elle avait été victime d'un viol, un traumatisme terrible qu'elle a pu surmonter notamment grâce au professionnalisme des policiers qui ont reçu sa plainte dans un commissariat de Sydney puis ensuite mené l'enquête, grâce aussi au soutien psychologique qui lui a été apporté gratuitement par les services de l'État et enfin grâce à la condamnation de son agresseur devant un tribunal. Cette expérience terrible, elle l'a d'abord racontée dans un long témoignage paru sur le site Slate et plus récemment dans un livre qui vient de paraître et qui s'intitule 0,9%, plaidoyer pour ne plus jamais la fermer. 0,9%, c'est en fait le pourcentage des viols et tentatives de viol qui font l'objet d'une condamnation en France. Jeanne Brooke nous a parlé il y a quelques mois, voici son témoignage.
Alors, j'avais lu ton témoignage sur Slate et tu expliques qu'en fait, tu as mis beaucoup de temps à te rendre compte de vraiment ce qui t'était arrivé, enfin, qu'il y a eu plusieurs phases, mais que sur un délai relativement court, tu avais l'impression que tu avais absorbé le choc et que tu étais déjà passé à autre chose. Et plusieurs mois plus tard, tu t'es rendu compte que c'était toujours très vif et que tu n'avais pas encore du tout digéré les événements.
Ouais, tout à fait. En fait, je me suis rendu compte plus tard que j'avais fait un énorme déni. Et donc oui, sur le moment, je suis allée chez les flics, mais c'était vraiment un réflexe de quelqu'un qui a lu vraiment beaucoup d'articles sur le sujet. J'ai lu et relu que vraiment, quand il se passe un truc comme ça, il faut directement aller chez les flics. Et donc, j'y suis allée, mais c'est vrai que sur le moment, j'étais choquée, mais je ne me rendais pas compte à quel point j'étais atteinte. Et en fait, j'étais tout simplement en train de faire un déni. Et je pense que c'est un peu le piège d'ailleurs et que c'est peut-être une des raisons pour lesquelles on ne va pas directement chez les flics. Enfin, pourquoi beaucoup de filles n'y vont, ou de mecs d'ailleurs, n'y vont pas directement. C'est que sur le moment, tu ne te rends pas compte que ça fait hyper mal en fait. Et tu dis, ah, c'est ça en fait, bah, ça va, je ne suis pas blessée, j'ai pas mal, j'ai pas été menacée. Entre guillemets, parce que c'était pas violent en fait, c'était pendant, enfin si c'était violent, mais j'étais en train de dormir donc je m'en suis pas rendu compte, on m'a pas mis un couteau sous la gorge. Donc pour revenir à ta question, oui, du coup j'ai fait un déni et je pense que ce déni, beaucoup de personnes l'ont, et c'est ce qui fait que tu te rends pas forcément compte que ce qui vient de t'arriver c'est grave et que du coup les gens vont pas chez les flics. Mais suite à mon témoignage, j'ai reçu beaucoup de mails et il y a beaucoup de personnes, je pense, qui vont pas chez les flics parce que sur le moment, tu te rends pas compte en fait, t'es un peu t'es pas tétanisé, mais t'es là, ah d'accord, bon bah c'est ça, bon bah finalement c'est pas si grave, et puis bah je veux continuer de toute manière, c'est un peu une tannée d'aller chez les flics, de faire un procès et tout, mais en fait au final ça finit toujours par t'exploser à la figure plus tard, je pense.
Alors il y a cet aspect de déni, mais vu que tu disais à l'instant que c'était déjà un sujet sur lequel tu t'étais pas mal documenté, qui t'intéressait beaucoup, et on sait que en tout cas en France les victimes sont pas toujours très très bien reçues quand elles se rendent au commissariat ou à la gendarmerie pour déposer plainte, tout simplement expliquer ce qui vient de leur arriver. Est-ce que quand toi tu es allé directement à la police en Australie, tu avais une part d'appréhension en te disant, enfin par rapport à cette question-là, comment est-ce qu'ils vont me recevoir? Est-ce que on va me considérer comme une victime? Est-ce qu'on va remettre en cause la légitimité de ma plainte ou est-ce qu'il y a ce genre de choses qui t'a traversé l'esprit?
J'étais assez confiante en allant chez la police. Le seul truc à la rigueur qui me freinait un peu, c'était presque moi-même en fait. C'était de me dire, putain, je suis vraiment en train d'aller au commissariat maintenant. Et est-ce que je suis sûre de ce qui m'est arrivé? Et en fait, même si j'avais toutes les preuves qu'il fallait, que j'étais sûre à 100%, tu ne peux pas t'empêcher de te dire, attention, fais gaffe, parce que là, tu vas quand même appuyer sur un truc où tu ne peux plus revenir en arrière, il faut vraiment que tu sois sûr. Et j'étais sûre à 10 000%, mais c'était plus cette petite voix-là qui faisait que c'était flippant, en fait, d'aller au commissariat. Après, je ne me suis pas dit que j'allais être mal reçue. Enfin, je pense que je n'ai pas eu le temps de me poser la question parce qu'en fait, je suis vraiment sortie de chez le mec et je suis allée directement au commissariat et ça m'a pris 5 minutes parce que c'était vraiment tout près. Donc, je pense que je n'ai pas eu le temps d'avoir peur. Et je suis arrivée, je suis tombée sur un flic homme. Et je lui ai dit, Je me suis fait violer. Est-ce que je peux passer, est-ce que je peux parler à une flic femme? Et il est revenu, il m'a dit, je suis désolée, pour le moment, il n'y a pas de femme, il n'y a que moi. Et donc, pareil, c'est à ce moment-là, peut-être où je me suis dit, ah mince, c'est un mec. Et puis, en fait, au bout de 2 secondes, je me suis dit, non, mais enfin, au point où t'en es, c'est vraiment pas grave. Tu vas faire comme si c'était une fille, et puis même, tu t'en fous. Tu vas lui raconter, ça va bien se passer.
Et alors, par rapport à ça, dans ton témoignage, tu reviens longuement sur la prise en charge, à la fois par la police, les services de santé, puis ensuite la justice. Et globalement, tu en ressors quelque chose de très positif. Hein, tu as été traité correctement et comme tu le devrais, comme une victime d'un crime.
Du coup, je suis arrivée au commissariat et j'ai raconté ce qui s'est passé. Et effectivement, tout de suite, on s'est hyper occupé de moi. Ils m'ont fait raconter mon histoire plusieurs fois, mais ils étaient hyper, enfin, ils étaient vachement dans l'écoute et dans l'empathie. Je me souviens d'une des flics, elle n'arrêtait pas de me donner des mouchoirs et de l'eau parce que j'étais vraiment choquée, en train de pleurer, et j'arrivais pas à m'arrêter de pleurer. Et donc les flics étaient hyper sympas, ils étaient hyper pros, ils savaient exactement comment ça allait se passer. Donc du coup, par exemple, à un moment, je dis, est-ce que je peux aller aux toilettes? Et la flic, elle m'a dit, bah non, en fait, il faut pas que tu ailles aux toilettes parce que après on va t'emmener à l'hôpital, et du coup, si tu vas aux toilettes, ça peut faire disparaître des traces ADN et tout. Avant d'emmener à l'hôpital, on est passé chez moi pour que je prenne des habits parce qu'ils savaient très bien que la police scientifique allait prendre mes habits ensuite à l'hôpital. Donc pendant la nuit, on s'est très bien occupé de moi. Le lendemain, directement, on m'a accompagné dans un autre commissariat pour voir un détective, etc. Et pareil, et donc là, j'étais en train de m'effondrer de fatigue. Et donc ils m'ont ramené chez moi. Enfin, ils étaient vraiment hyper gentils, comme si c'était des amis un peu, et qui voulaient que ce soit le moins douloureux et pour moi. Donc, ils étaient hyper sympas. Et puis ensuite, c'est eux qui me rappelaient pour me dire où est-ce qu'ils en étaient de l'enquête. Ça, je pense que c'est assez différent de la France aussi, où tu n'as pas trop de nouvelles une fois que tu as déposé une plainte, et où si tu ne fais pas des pieds et des mains, tu ne sais pas trop ce qui se passe. Donc moi, à chaque fois, ils m'appelaient pour me dire où on était. Ils s'assuraient que j'étais bien OK pour continuer et pour aller jusqu'au procès, etc. Donc ça, c'était la partie flic. Mais ensuite, j'ai reçu des messages de la partie un peu suivi psychologique de l'hôpital, parce que suite au fait que du coup j'étais passée aux urgences pour qu'ils fassent tous les relevés ADN, qu'ils me fassent remplir un questionnaire, etc. Et là du coup mon nom leur avait été communiqué, et au département un peu ça s'appelle le Sexual Assault Center. Et du coup, on m'a appelé en me demandant, déjà pour me demander comment j'allais, et point numéro 2, en me disant, si jamais tu veux venir voir une counselor, tu peux, et c'est gratuit, et voilà. Et puis ensuite, on m'a encore fait remplir des papiers pour que j'aie accès à ce qu'on appelle le victim support. Et donc là, du coup, vu ce qui m'était arrivé, j'avais le droit à 20 séances de psy, mais avec un autre psy encore que celui de l'hôpital. Et un paiement de dédommagement qui était pas énorme en fait, mais bon, en fait c'était quand même hyper cool d'avoir ça, parce que pareil, enfin vraiment, en France on est à des années-lumière d'avoir un suivi psychologique et un dédommagement comme ce que j'ai eu en fait.
Il y a un point, enfin moi, que j'avais qui m'avait frappé dans ton texte, c'est que tu expliquais que, contrairement à ce que malheureusement il se passe beaucoup encore dans les commissariats français, à aucun moment on t'a culpabilisé.
Ouais, non, ils ont pas du tout commenté ce qui s'était passé. Et c'est vrai que j'avais une petite appréhension de me dire, je savais que j'étais dans mon bon droit, mais effectivement, peut-être qu'un flic un peu débile aurait pu dire, donc toi, tu rencontres un mec en boîte et tu rentres avec lui direct 2 heures après, quoi. Et je pense qu'un flic con aurait pu dire ça, mais en l'occurrence en Australie, non, pas du tout.
Donc, tu as écrit ce texte qui a été publié sur Slate. Quand tu l'as écrit, en fait, c'était quoi ton objectif ?
Alors, en fait, au tout début, je me souviens très bien quand j'ai écrit la première partie, c'était juste sur la nuit de l'agression en elle-même, et ensuite la nuit au commissariat, à l'hôpital, etc. Et ça, je l'ai écrit parce que je savais que ça allait mettre. J'avais pas encore de date de procès. C'était peut-être quelques semaines après l'agression, et je savais que le procès, ça allait mettre du temps à arriver. Et je me disais, il faut pas que j'oublie ce qui s'est passé parce que Enfin, même si j'ai fait une déposition où tout est écrit, en fait, il faut que j'ai un moyen de m'en souvenir. Et du coup, j'ai tout écrit pour pouvoir me dire, OK, maintenant, c'est écrit. Donc, c'est dans ton PC, voilà, et tu le reliras avant d'aller au procès. Mais comme ça, tu peux t'en débarrasser et t'es pas obligé de garder tous les détails en tête. Enfin, je sais pas, je pensais que le fait de l'écrire, ça allait du coup l'enlever un peu de ma tête et que j'irais mieux après. Donc, c'est pour ça que j'ai écrit la première partie. Et puis ensuite, une fois que le procès est passé, je me suis dit, bah, c'est quand même incroyable parce que ça arrive vraiment pas souvent que des affaires de viol se terminent par une condamnation. Et en fait, bah, du coup, enfin, c'est presque un devoir de témoigner et d'expliquer. Et d'expliquer comment ça s'est passé. Et du coup, je me suis dit, j'ai lu plein de témoignages, mais je pense que j'ai jamais lu un témoignage qui se finissait entre guillemets bien. Et du coup, je me suis dit, bah voilà, il faut que je le fasse. Et puis, c'était aussi une façon de rendre un peu ce que j'avais eu, c'est-à-dire que je suis consciente que si je suis allée chez les flics de manière instinctive, c'est parce que j'avais lu beaucoup, beaucoup, beaucoup de témoignages avant. Et donc, je me suis dit, bon, bah voilà, en fait, il faut continuer à témoigner le plus possible. Et peut-être que mon témoignage, ce sera celui ou un de ceux qui fera que une prochaine victime, elle n'hésitera pas une seconde et elle ira chez les flics. Donc, au final, ça avait un peu plein de buts qui étaient différents. C'était à la fois pour moi, mon souvenir, pour témoigner, pour montrer que c'est possible. En fait, c'est assez ambivalent ce que je ressens, parce que d'un côté, oui, c'est terrible et je pense qu'il y a un moment où ça m'a vraiment détruite et où je pense que je ne suis plus la même qu'avant et ça m'a transformée pour toujours. Et d'un autre côté, en fait, c'est vraiment un crime qui est tabou et qui fait que quand on parle aux gens, il y a tout de suite un truc qui tombe un peu, tu vois, un peu comme un ange qui passe. Et ça, en fait, je ne vais pas dire que c'est dérangeant, mais en fait, je me dis que peut-être si on considérait que le viol, oui, c'était grave, mais que ce n'était pas perçu avec gênance comme ça, bah, ce serait peut-être plus facile pour les victimes, parce que là, en fait,
Ouais.
il y a plein de victimes qui n'osent pas en parler.
Pour revenir en Australie et à ce que je te disais tout à l'heure sur le sentiment général et partagé que globalement on se sent plus sûr quand on est une femme en Australie qu'en France, est-ce qu'il y a un message que tu souhaiterais adresser aux Françaises, enfin, aux femmes en général qui sont en Australie et qui viennent d'ailleurs en tout cas, et enfin voilà, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais leur dire en plus de ce que évidemment tu as déjà écrit sur ton expérience à toi?
Ouais, ce que je veux dire, c'est que même si en Australie on a l'impression d'être hyper safe et tout, en fait, enfin, peu importe dans quel pays t'es, de toute manière, il y a des timbrés partout. Mais bon, en même temps, on va pas s'arrêter de sortir. Et voilà, moi, ce qui m'est arrivé, en fait, je peux même pas regretter vraiment d'être allée à la Soda Factory parce que bah, enfin, je veux pas arrêter. De sortir avec mes potes et tout, mais c'est juste, si vous arrive une merde comme ça, et surtout en Australie, faut vraiment pas hésiter à aller chez les flics, parce que pour le coup, ils sont hyper hyper formés sur le sujet, et hyper compréhensifs et hyper empathiques. Et je pense que s'il y a bien un pays où faut pas avoir peur d'aller au commissariat et où potentiellement il y a plus de chances que le procès ait une issue positive, c'est en Australie, quoi.